Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir, merci de nous rejoindre dans Radio Foot International dans cette émission consacrée eh bien, à cette soirée de Ligue des Champions, aux matchs qui se sont déroulés et ce soir. Une belle soirée finalement au lendemain de l'attaque toujours inexpliquée du bus du Borussia Dortmund. Et il y a donc eu ces rencontres où les clubs allemands n'étaient pas à la fête, face notamment à de bons buteurs. À Dortmund, Kylian Mbappé a largement contribué à la victoire de Monaco, vainqueur du Borussia, par un doublé. Kylian Mbappé, un score de 3-2 donc, qui offre au Monégasque eh bien, une belle option pour la demi-finale de la compétition. À Munich, Cristiano Ronaldo a, par son doublé, lui aussi permis au Real de l'emporter. Le Bayern réduit à 10 et battu par 2-1. Il aura bien du mal au match retour à Madrid. L'élève Zinedine Zidane a dépassé le maître Carlo Ancelotti. L'Atlético Madrid s'impose chez lui par 1-0, laissant à Leicester eh bien, le droit de rêver, car les Foxes joueront le prochain match en Angleterre. La force des Colchoneros est dans sa défense, mais le suspense reste entier. Enfin, nous évoquerons ce match qui se déroulera demain soir, match européen au Parc OL, sous très haute surveillance, car la rencontre de Ligue Europa qui opposera Lyon et les Turcs de Beşiktaş eh bien, attire beaucoup de supporters. Et dans le contexte actuel, la tension est grande autour de ce nouveau stade de Lyon. Christophe Diremzian nous expliquera donc en détail pourquoi. Nous sommes aussi avec Nabil Djellit et Patrick Juillard. Bonsoir,
bonsoir
messieurs.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Et puis Eric Chorin, fidèle au poste lui aussi. Bonsoir Eric.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Radio Foot, c'est donc parti. La fête était au rendez-vous dans les gradins du stade de Dortmund à l'historique Westfalenstadion où les supporters entonnent toujours ce refrain avant les rencontres Will Never Walk Alone et on l'a vu ce soir, il y avait évidemment beaucoup plus de ferveur, allusion à la soirée d'hier, cette soirée gâchée par ces explosifs qui avaient visé le bus du Borussia Dortmund et blessé Marc Bartra. Mais le match ce soir, programmé à 18h45, a donc eu bien lieu. Les supporters monégasques étaient hier 3000, sans doute un peu moins nombreux ce soir. Mais ils étaient là aussi et il y a eu du spectacle sur cette pelouse. Il y a eu des buts et il y a eu aussi du suspense. Eric, une bonne soirée pour les amateurs de foot.
Ben oui, ce soir c'est ce qu'on attendait un peu après la difficile soirée vécue hier du côté de Dortmund. Belle soirée de football avec les joueurs qu'on attendait, Mbappé d'un côté
et Dembélé
de l'autre. Monaco qui s'impose à l'extérieur, ce qui était quand même pas forcément attendu au départ, même si on avait si on l'espérait hein, finalement, de un match avec des buts, c'est ce qu'on attendait. En revanche, avec ces deux équipes très offensives, un match qui permet à Monaco d'entrevoir peut-être quand même un dernier carré. Vous avez un petit bémol, Patrick Juillard, à mettre.
Ah non, sur le fait que Monaco ait fait une grosse opération et puisse entrevoir maintenant les demi-finales, oui, ouais. je suis d'accord. Après, j'ai trouvé.
Monaco reste fidèle un petit peu à ce qu'ils font toute cette saison, avec du beau jeu, avec ses 3 buts en moyenne par match, on les a encore.
Un gros déséquilibre vers l'avant, bon, qui est très plaisant à regarder, mais qui peut parfois faire peur à leurs supporters, je pense, quand on voit certaines situations en défense. moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a vraiment eu 2 matchs, en fait. Il y a
deux mi-temps.
Une première mi-temps où on sentait vraiment les joueurs du Borussia totalement pas dans le coup, c'est-à-dire encore sur l'événement d'hier et pas du tout rentré dans le match. Et vraiment, ils ont commencé leur match à la mi-temps alors qu'ils étaient déjà menés. Et ça, c'est, je pense qu'il leur a manqué du temps. Et malheureusement, comme je l'avais dit hier, il était évident que le match n'allait pas être reporté.
Oui, et n'allait pas être tout à fait normal non plus. Cédric de Oliveira, vous étiez dans le stade ce soir. Vous avez assisté à cette rencontre. On a fait allusion à ce début hein, de spectacle finalement par le Will Never Walk Alone. Comment était l'ambiance dans ce stade?
Bah absolument extraordinaire, presque comme si de rien n'était. Franchement, on a senti une communion assez intense entre le public et les joueurs. Et d'ailleurs, parmi les deux camps, parce qu'il y a déjà le parquage monégasque, voilà, qui avait un petit, je dirais 1500 supporters monégasques. Bah, ils ont fait beaucoup de bruit. Ils ont aussi lancé maintenant leur célèbre Dortmund, hein, qui a été applaudi par le reste du stade. Il y avait aussi les joueurs aussi ont été applaudis à leur entrée sur la pelouse. Et puis alors, dès que le match est parti, on craignait un peu hein, que le mur jaune, le fameux mur jaune, soit peut-être un peu moins impressionnant, un peu moins tonitruant que d'habitude. Bah, franchement, il a été le minimum du Borussia, et notamment en seconde période quand il a fallu pousser sur le but de Monaco, je peux vous dire que ça fait beaucoup de bruit. Voilà, une ambiance assez extraordinaire.
Oui, ce mur jaune, effectivement, fidèle à sa réputation, et on voyait de loin à travers les écrans ces belles lettres du BVB, parfois noires, parfois jaunes, sur le fond de cette tribune. Alors, Cédric, on était en train déjà d'évoquer le fond de l'affaire, c'est-à-dire le match, la victoire de Monaco. Et donc, Patrick, vous mettiez un bémol, justement, parce que effectivement, on sait que ce qui s'est passé hier soir était forcément dans toutes les têtes. Et d'ailleurs, dès la sortie du match, l'entraîneur Thomas Tuchel s'est un peu exprimé. Voilà,
oui.
Il n'avait rien dit jusqu'à présent, et là, il a pris les devants.
Cédric nous dira peut-être ce qui s'est dit en zone mixte du côté des joueurs, mais du côté des entraîneurs en salle de conférence de presse, où il ne pouvait pas être, il ne peut pas être à deux endroits différents, Cédric de Oliveira, en même temps.
Vous n'avez pas d'hologramme dans votre valise?
mais effectivement,
j'ai pas encore ça dans ma besace, non.
Va falloir vous équiper. L'entraîneur du Borussia, en tout cas Thomas Tuchel, hein, si on le prononce à l'allemande, ou
Tuchel,
Tuchel à la française, mais bon, ça sonne un peu moins bien.
Vous faire engueuler par David Lortolari. Hein,
oui, oui, mais il n'est pas là, j'en profite. Et du coup, non, il s'est lâché effectivement. Bah après la rencontre, comme ça arrive, et il est furieux contre l'UEFA. Il a déclaré après l'attaque, nous aurions aimé avoir plus de temps pour digérer tout cela, et on ne nous a pas laissé le temps. On nous a dit demain vous devez jouer, nous nous sommes sentis ignorés, on ne nous a pas demandé notre avis, ils ont décidé ça à l'UEFA en Suisse quelques minutes après l'attaque, on nous a dit qu'on devait jouer comme si on nous avait envoyé une canette de bière contre le bus. Et il ajoutait, enfin pour revenir un peu au côté sportif, il s'agit aussi de notre rêve de jouer une demi-finale de Ligue des Champions, nous aurions voulu jouer à notre meilleur niveau, être compétitif, pas sûr effectivement qu'il l'ait été ce soir.
Nabil.
Ouais, c'était un peu l'avis d'ailleurs de Nouri Sahin également, hein, qu'on a croisé en zone mixte ici. C'est un des seuls joueurs du Borussia à s'être arrêté auprès des médias français. Nouri Sahin, le milieu turc, qui lui était un petit peu du même avis que son entraîneur, et il disait que voilà, ils n'avaient pas forcément la tête à ça, et que ils auraient aimé en tout cas décaler le match de 3 ou 4 jours. Alors même si effectivement, après, il y a des contingences de calendrier, mais enfin, en tout cas, c'était son avis à Nouri Sahin.
On avait tout à l'heure Habib Bey, hein, dans l'émission, qui lui aussi nous disait qu'en tant qu'ancien joueur professionnel, il imaginait bien que ça aurait un impact. Lui nous racontait un incident, parce que là, c'était même pas un accident, un incident qui avait eu lieu une fois contre le bus de l'OM. Nabil, ça s'est senti quand même, peut-être, oui. Le but notamment contre son camp.
Bah, c'est le dénommé Bender qui devait pas jouer le match puisque c'était Bartra.
Bender.
Ils sont deux. Lars et Sven, je sais pas lequel qui était là.
C'était Sven.
International allemand, hein, c'est quand même un très bon joueur. Après, on va pas essayer de faire de la psychologie de comptoir. Moi, j'en ai pas le niveau. Tout ce que je sais, c'est que nous, ici, en France, on va avoir une lecture sportive par rapport à Monaco, et on va en parler. À mon avis, en Allemagne, si on est en Allemagne, comme notre correspondant, on a une lecture sécuritaire de ce match, consciemment ou inconsciemment. On ne sait pas comment réagissent en réalité les joueurs. Il y a peut-être eu une réaction, ensuite un contre-coup émotionnel. Tout le monde ne réagit pas de la même manière. Mais moi, je me mets à leur place. Tout simplement, je me dis que, en gros, si je prends même pas du recul, je me dis, en gros, la veille, j'ai failli mourir. Non mais, concrètement, enfin, je veux dire, le but quand on fait des actes de ce type-là, c'est pour
et
faire mal
fait peur.
Ou très mal. On a le droit de se dire qu'on a peut-être failli perdre la vie. Donc, quand on est dans cette situation-là émotionnelle, est-ce qu'à votre avis, le lendemain, on va au travail ou pas? Puisque là, ils travaillent, ces gens-là. C'est non.
Oui, je suis totalement d'accord avec Nabil. Évidemment, dans l'idéal et dans l'absolu, et pour toutes ces raisons, il aurait fallu jouer ce match plus tard, laisser un peu de répit aux joueurs. Mais comme le calendrier est serré,
que tout le monde se plie, l'UEFA
ne veut pas qu'il y ait de distorsion dans l'organisation de sa compétition, qu'il y ait des matchs à des dates qui ne sont pas prévues, qui puissent un petit peu introduire des ruptures entre les équipes et tout ça, il était évident que ce match allait se jouer aujourd'hui, c'était sûr. Donc maintenant, malheureusement, il y a eu des coups du sort en plus qui ont accentué ce déséquilibre, c'est-à-dire que le but contre son camp, c'est dur, mais c'est encore un fait de jeu. Mais le but hors jeu accordé à Mbappé sur cette frappe de Lemar, donc qui partait en direction de la sortie de but, que Mbappé arrive à reprendre au deuxième poteau
de la cuisse,
alors qu'il est hors jeu, il n'aurait pas dû être accordé. Il est accordé, donc bon.
Et d'ailleurs, il y a eu de l'aile et la cuisse pendant ce match. L'aile, l'aile de pigeon de Dortmund, de Aubameyang, et la cuisse de Mbappé.
Alors, un petit peu d'humour, un petit peu de légèreté.
Voilà.
Mais vous savez ce que ça me rappelle comme situation, c'est quand même ce que j'ai pu vivre avec l'équipe de France quelques jours après ce France-Allemagne de triste mémoire. Déjà, les Allemands eux-mêmes, indépendamment du match, il y avait eu une alerte à la bombe à leur hôtel avant, donc ils avaient abordé ce match dans de mauvaises conditions, ils l'avaient joué, il y a eu tout ce qui s'est passé cette nuit dramatique, et 4 jours après, le président de la Fédération Française avait dit que l'équipe de France serait en Angleterre pour jouer ce match face à l'Angleterre à Wembley. Après, on avait entendu en conférence de presse Didier Deschamps, dans un premier temps, son capitaine Hugo Lloris. Didier Deschamps plutôt mesuré, mais Hugo Lloris s'exprimait un peu plus franchement en dire que eux, ils auraient préféré ne pas le jouer, déjà avant la rencontre. Et ensuite, après ce match, en zone mixte, on avait des joueurs, notamment un Bakary Sagna, qui disait qu'il n'y était pas du tout, qu'il n'avait pas envie de le jouer. D'ailleurs, c'est ce match qu'ils ont perdu, ils n'avaient pas vraiment pas envie de le jouer. Donc on peut comprendre. Évidemment, les événements avaient été beaucoup plus dramatiques, mais la peur de mourir, ou le fait que des gens soient morts, en l'occurrence pour ce premier match de l'équipe de France, ça pèse.
En conférence de presse, lui aussi, Leonardo Jardim, l'entraîneur des Monégasques, a lui aussi été un petit peu dans ce sens, en étant plutôt courtois et en disant que bien, ce qui restera dans l'histoire, ce n'est pas la victoire de Monaco, mais ça sera ce qui s'est passé la veille.
Ah bah, il a totalement raison.
Alors maintenant, sur le plan sportif, dans la compétition, ce qu'on a vu, Cédric De Oliveira, c'est quand même une bonne équipe de Monaco, mais surtout celui qu'on attendait, celui sûrement que les joueurs de Dortmund attendaient aussi, et ils n'ont pu l'empêcher de marquer, c'est Kylian Mbappé.
Mais oui, c'est un peu ça aussi le sentiment, c'est que Dortmund n'a pas non plus fait un mauvais match, ils ont même été plutôt bons, notamment en seconde période, mais simplement, voilà, il y a eu trop de largesse défensive, et surtout, ils sont tombés sur un très grand attaquant. Alors certes, il a que 18 ans et 3 mois, mais voilà, il s'appelle Kylian Mbappé, il réussit quasiment tout ce qu'il fait en ce moment. Alors voilà, il a eu de la réussite sur premier but, il est hors jeu, il marque de la cuisse, il fait même pas exprès, ou en tout cas, il a la réussite d'être placé au bon endroit au bon moment. Et puis il y a ce deuxième but qui est absolument exceptionnel, parce que il va chercher la balle, enfin il profite en tout cas de la mauvaise passe des deux défenseurs centraux, et ensuite il va battre le gardien de Dortmund d'une frappe exceptionnelle sous la barre en pleine lucarne, un sang-froid d'un grand attaquant de classe mondiale. Voilà, Mbappé qui a fait un gros match ce soir et qu'a porté l'AS Monaco sur ses épaules.
Un doublé et un jeune garçon qui s'arrête en zone mixte et qui, là aussi, est plein de sang-froid dans ses déclarations parce qu'il est partagé.
On est très heureux parce qu'on a marqué un grand coup aujourd'hui. Après, il y a les hommes, et les hommes, ils sont un peu touchés par ce qui s'est passé, un peu, même beaucoup. Maintenant, comme on l'a dit, on a essayé de faire passer un message. On est tous avec Bartra parce qu'on sait que c'est une épreuve difficile pour lui, mais aussi pour les joueurs de Dortmund. Donc on les soutient au maximum sur ce point-là. Personnellement, nous, on a subi dans le vestiaire tout ce qui s'est passé. Donc quand vous subissez, c'est dur. Sachant que vous avez des nouvelles une fois toutes les demi-heures, vous attendez, vous êtes dans l'attente. On nous dit qu'il y a une explosion, on ne nous donne plus de nouvelles. Donc c'est vrai qu'on s'inquiète, on craint le pire. J'ai essayé d'appeler Ousmane Dembélé. On s'est appelé un petit peu, il m'a expliqué la situation. Et je lui ai dit que j'étais avec lui et avec toute son équipe et que... Sur ce point-là, on était tous ensemble, il n'y avait pas de clan, pas d'équipe, on était des hommes. J'avais à cœur de faire un gros match, vu que j'avais été laissé sur la touche, entre guillemets, les deux derniers matchs. Donc voilà, le coach m'avait dit que ça faisait partie de la rotation, je l'ai accepté. Maintenant, je voulais montrer que moi, je peux apporter quelque chose à l'équipe, et c'est ce que je pense que j'ai bien fait aujourd'hui.
Je crois que personne ne doute de ce qu'il peut apporter une équipe désormais, Kylian Mbappé.
Mais beaucoup de maturité dans ses propos et d'orgueil, Cédric de Oliveira, dans la bouche de Cédric de Cédric de Oliveira, mais dans la bouche de Kylian Mbappé quand même.
Non, vous n'avez pas marqué de doublé.
Non, mais c'est vrai, à la fois maturité et orgueil quand même.
Il est impressionnant Mbappé. C'est pas la première fois d'ailleurs en interview, mais c'est vrai que là, avoir ce recul là. Sur les événements et sortir ce genre de phrase voilà pleine d'humilité, c'est assez époustouflant de la part encore une fois d'un garçon qui n'a que 18 ans.
Oui, Nabil, vous avez eu la possibilité de parler avec la personne qui l'a fait signer à Monaco, c'est ça?
Ouais, en fait, c'est un formateur qui est aujourd'hui responsable de la cellule de recrutement à Lens. Ils sont deux à avoir favorisé son arrivée à l'AS Monaco alors qu'il était courtisé par Caen, Lens, le Real Madrid, où il a passé une semaine sous le tutorat de Zinedine Zidane. Et puis, juste avant son premier match de LDC, de Ligue des Champions, face à Manchester City, je lui dis dans notre discussion d'une heure, il y a un truc qui m'a intéressé, c'était surtout que tu as payé sur l'aspect mental. Alors, il me répond, et je vais vous le lire, comme ça vous le saurez, il s'appelle Reda Hamash. Tu ne peux pas imaginer une seule seconde à quel point il attendait ce moment. Non pas le moment où il jouera un match de Ligue des Champions, mais le moment où il montrera à l'Europe qui est Mbappé. C'est un challenger pur sang, un showman qui respecte le jeu. Lui, il veut pas juste jouer la Ligue 1 ou la Ligue des Champions. Il veut gagner la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, le Ballon d'Or, en étant le meilleur joueur de son équipe tous les ans jusqu'à 40 ans. Et pour terminer, il m'a dit, il est programmé, 3 petits points. Voilà.
Bon, pour l'instant, le programme a l'air de fonctionner.
Alors lui, c'est à 13 ans qu'il l'a connu, qu'il a détecté à Bondy comme d'autres. Et évidemment, il y a eu beaucoup de discussions avec les parents qui sont beaucoup plus... qui sont des parents posés, intelligents. Au départ, il devait signer à Caen.
Ça sent à travers le fils. Hein.
Ouais, à Caen. La maman et le papa sont des sportifs de haut niveau. Il faudrait vérifier. Je montre si la maman n'a pas fait du hand ou du volley. Le papa et la famille du papa sont dans le football. C'est également le demi-frère d'un autre joueur qui a joué, je crois, avec la République démocratique du Congo. Il faut vérifier. Mais qui s'appelle Jires Kembo Ekoko, qui est passé également par Monaco. Au départ, pour vous situer les choses, il devait signer à Caen. Ça s'est pas fait parce que Caen est redescendu en deuxième division et ne pouvait pas honorer les promesses. C'était pareil avec Lens, ça s'est pas fait. Ensuite, il y a eu un match entre le Real et Monaco. Il est parti au Real, il a passé une semaine. Zidane a été nickel à tout point de vue avec lui. Ça, c'est à 13 ans. Hein. Et finalement, ça s'est fait à Monaco grâce notamment à ses éducateurs, enfin ses formateurs qui ont lié des liens de proximité avec la famille. Et puis, quelque part, Mbappé restait aussi en France et pour la famille, c'était peut-être mieux.
Mmh. En tout cas, il y a eu Mbappé, il n'y a pas eu que Mbappé qu'on a vu de cette équipe de Monaco.
J'ai adoré le match de Thomas Lemar, qui a vraiment fait des grosses différences, qui a été au charbon vraiment sur son côté et qui a été exceptionnel. Sur le premier but, bon, où Mbappé est hors jeu, c'est lui qui met la frappe, qui fait toute l'action sur le côté gauche et qui met cette frappe qui se transforme en passe en quelque sorte. Il y a une frappe qui n'était pas cadrée, mais il a vraiment eu un impact exceptionnel. Bernardo Silva a été peut-être moins flamboyant, mais sur les quelques actions qu'il a eues sur son côté, il a quand même fait des belles différences.
Sur le premier but, ça remontait de balle.
Voilà, c'est ça.
Ouais, quand même.
Et puis j'ai trouvé Radji qui était quand même celui sur lequel il y avait peut-être le plus d'interrogations.
Hein.
Voilà, puis c'est pas vraiment un latéral gauche de métier. Il a vraiment bien fait le boulot sur son côté aussi.
Cédric,
Tu peux me permettre, Radji, il a quand même souffert face aux attaquants de Dortmund.
Oui,
d'abord Dembélé et ensuite. Pulisic, il a quand même beaucoup souffert. Alors après, oui, c'est lui qui fait le centre sur le deuxième but de Bender contre son camp. Donc au moins on peut lui accorder ça à son crédit. Mais c'est vrai que quand Dortmund a compris qu'il fallait passer sur son côté, ça a beaucoup beaucoup insisté justement sur son côté.
Moi j'en ai discuté avec Karl Medjani, un international algérien qui était également à Monaco avec l'ami Radji. Il m'a dit c'est un garçon qui a une grosse expérience, un peu sous-estimé, c'est un vrai couteau suisse. C'est ce qu'il a fait face à Monaco. À Dortmund.
Et en face, Pierre-Emerick Aubameyang a été un petit peu moins présent. On a surtout vu Dembélé.
Voilà, absolument. Il s'est fait éclipser complètement.
Mm-hmm. C'est la fin de cette première partie de Radio Foot International. Merci beaucoup, Cédric de Oliveira, d'avoir été en direct avec nous. Bon retour de Dortmund. Et nous, on se retrouve juste après la pause pour parler encore de Ligue des Champions.
Radio Foot International. Annie Gasnier.
Et nous sommes toujours là pour Radio Foot International pour la deuxième partie de l'émission après les matchs de Ligue des Champions qui se sont déroulés au cours de la soirée. Nabil Djellit est toujours là, Patrick Juillard aussi, Eric Chorin.
pas Alejandro Valente, donc on parlera pas du Barça.
Non, on n'en parlera
ni de,
pas.
Ni de Caparros, qui pourrait devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Algérie, mais c'est pas fait.
Effectivement, mais on ça attend la confirmation.
Ouais, attendez, oui. Ouais.
On attend la fumée blanche.
Méfiance absolue.
Alors, Cédric De Oliveira n'est plus là, on lui a dit au revoir tout à l'heure, mais par contre, on a un nouveau collaborateur au téléphone, et là, il s'agit de Christophe Diremjean. Bonsoir, Christophe.
Christophe, bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Bonsoir Christophe, vous n'êtes pas si loin pourtant, vous êtes vous
tout
du
bien,
côté de Lyon.
Hein
c'est là-bas qu'on a inventé le théâtre de Guignol, non? C'est pour ça qu'on vous a fait un petit coucou comme ça en passant. Bon, on verra dans 3 secondes.
Mais c'est très sympathique de votre part, j'ai hâte de vous parler du match de demain, en Ligue Europa.
Bien sûr, on va juste s'arrêter encore un petit moment sur les matchs de la soirée, Christophe, si vous nous y autorisez. Et on va commencer d'ailleurs par ce doublé.
Oui, bon, ça centre avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui frappe dès l'entame de la deuxième période et qui remet le Real Madrid au niveau du Bayern Munich. Il l'a placé magnifiquement. Un par un pour Manuel d'ailleurs. Et qu'il est important. Qu'il est important ce but du Madrilène sur la pelouse de Munich. Signé Ronaldo. Sergio Ramos, Toni Kroos, Asensio. Asensio qui est bon, le voilà le troisième but madrilène et le doublé pour Cristiano Ronaldo. Je crois que c'est passé entre les jambes cette fois de la fortune Emmanuel d'ailleurs. Ronaldo est là, Ronaldo est au rendez-vous et Ronaldo porte le Real vers la victoire de Musa.
Quelle mauvaise soirée pour Manuel Neuer, le grand gardien de but du Bayern et de l'Allemagne. Les Bavarois n'ont pas été à la fête sur leur pelouse. Cristiano Ronaldo, lui, a retrouvé les chemins des filets européens.
Je peux dire, Annie, plutôt que pour les Bavarois, c'était pas gâteau, ce toit.
Non, c'était pas ça, oui. Une forêt noire. Tellement difficile la soirée que le commentateur, là, il avait 3 buts, lui, hein, pour Madrid. Hein, donc, ouais. Après, il s'est repris. Hein, quand même.
Il s'est repris, mais
l'ami Stephen Guy,
s'est repris. Sur certaines pelouses, il a failli en avoir 3 d'ailleurs, parce qu'en fin de match, le but de Sergio Ramos a été annulé pour hors-jeu.
C'est pas grave, il le réserve pour la finale.
Oui, une tête encore, hein, parce qu'il est doué pour ça. En
incroyable.
Tout cas, Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé. Alors, ce qu'on peut se dire quand même, c'est que ce doublé, notamment ce but entre les jambes de Manuel Neuer, on n'attendait pas moins peut-être de Cristiano Ronaldo. On se souvient aussi qu'en 2014, cette équipe, une équipe du Real, il y en a beaucoup qui étaient là, mais certains aussi n'y étaient pas encore, avait battu le Bayern sur le score de 4-0. Et là, encore une fois, le Real marque des buts.
On va finir par croire que le Real est la bête noire du Bayern. C'était aussi un match entre deux coachs du Real, puisque c'est un match entre Ancelotti et Zidane qui l'a succédé. Bon, sur Ronaldo, la barre qu'il a atteint est exceptionnelle. Elle n'est pas prête d'être égalée.
Exactement.
On sait que longtemps, ce fut Raúl, un autre joueur du Real, qui était le recordman. Il y a quelques années, Ronaldo l'a dépassé. Maintenant, il a mis très loin derrière. Donc, c'est dire quand même... Alors, c'est vrai que maintenant, avec la formule de la Ligue des Champions, on a presque toujours les mêmes équipes en quart de finale tous les ans.
Ouais,
d'accord.
Le dernier,
mais ça veut aussi dire que c'est en face des gros adversaires.
Et qui maintiennent le niveau quand même.
Il n'y a plus guère de surprise cette année à part Leicester. Il n'y a pas de surprise en quart de finale.
Il y a Monaco quand même.
Et peut-être Monaco, mais qui était quand même déjà en quart de finale il y a 2 ans. Donc, des vrais invités surprises, il n'y en a qu'un. Et c'est pour dire quand même que les buts qu'inscrit Ronaldo régulièrement, ce sont face à des très grosses équipes pour la plupart. Donc c'est pas genre qu'il met 4 buts contre une équipe luxembourgeoise.
Non, non, et Emmanuel Neuer.
En tour préliminaire, là. Hein,
et puis c'est un joueur qui a quand même connu un hiver un peu difficile, qui se relance bien lors de cette confrontation vraiment.
Il a marqué la moitié des buts qu'il marque en général durant une saison. Et la saison quand même est en train de se terminer. Donc effectivement, 26 buts au lieu de la cinquantaine à laquelle il nous a habitués. Quand même, continuer sur ce match, il y a eu un fait de jeu qui, alors là, c'est pas dans les têtes, ça fait basculer quand même la partie, et on sait pourquoi, c'est parce qu'il y a une exclusion en début de deuxième mi-temps. Nabil, alors que le Bayern mène par 1-0, c'est un but qui a été inscrit par Vidal, qui a ouvert le score.
Il n'y a pas un partout à ce moment-là?
Non, il y a un pénalty raté aussi.
Oui, effectivement. Mais il y a déjà un partout.
Je pense qu'il y a un partout.
Mais en tout cas, il y a l'exclusion. Bon,
en tout cas, ça fait changer effectivement la physionomie du match.
À l'heure de jeu, oui, ouais, il y avait déjà un partout. Oui, oui, tout
avec
à fait.
Clairement une domination, qui devient. Façon, bon, à la mi-temps, Zidane a dû remonter les bretelles à ses joueurs, remobiliser ses joueurs.
Ils arrivent sur la pelouse, ils marquent leur but. Justement.
Tout à fait, ils sont transformés. Ensuite, c'est vrai qu'en première mi-temps, fin de première mi-temps, il y a ce penalty catapulté
par Arturo Vidal.
Par Vidal sur le parking du stade de l'Allianz Arena, en sachant que pour moi il n'y avait pas pénalty, mais ça c'est un autre débat et non, c'est le débat de la vidéo.
Je suis d'accord avec vous, Nabil.
C'est peut-être la justice.
Oui, il y a une justice. Dans ces cas-là, on dit qu'il y a une justice, mais bon, la justice ça marche pas à tous les coups. Parfois vous le prenez quand même. Mais bon, là, c'est vrai qu'à 2-0, c'est plus la même année. Hein.
Non, mais à Monaco, on a oublié ça aussi, mais c'est vrai qu'il y a eu un pénalty raté par Fabinho, qui jusqu'à présent avait 100% de réussite, et finalement, ce pénalty, il y était.
C'est fou comment ça baisse, le pourcentage quand on en atteint quand même. Hein.
Non, parce qu'on va parler aussi du match de l'Atlético où il y a un pénalty pour Griezmann et un autre oublié de l'autre côté. Pour Mahrez ce soir, c'était encore une soirée où l'arbitrage pour l'arbitrage n'a pas été toujours très simple. C'est pour ça que moi je suis encore une fois pour la vidéo, mais c'est pas le débat de ce soir.
Non.
On a eu l'impression d'un match. Je sais pas ce que vous en pensez d'un match entre deux poids lourds quand même, deux blocs solides, deux grosses équipes avec des talents offensifs hors du commun. Ribéry et Robben. Alors même si ce soir ça a mal tourné, franchement, on avait acheté des remplaçants, mais c'est eux qui sont sur le terrain. Douglas Costa. Coman était préparé, programmé pour prendre déjà leur place.
Ils vont devoir patienter. Hein.
Ce soir, ils ont démontré que c'était des joueurs de niveau de très haut niveau encore. Robben a essayé de faire la différence tout seul. Après, ce qui a fait la différence, c'est effectivement aussi l'expulsion de Ravi Martinez, la montée en puissance du Real, le coaching de Zidane avec la bonne entrée d'Asensio, qui est pour moi un vrai super joueur. Autant Ressé ou Lucas Vazquez, j'ai des doutes, mais ça, c'est un joueur qui réussira à très haut niveau. Et ensuite, quand vous avez le facteur X, quand vous avez le meilleur buteur de la Ligue des Champions, quand vous avez un garçon qui a remporté jusqu'à présent 4 ballons d'or, si je dis pas de bêtises, vous avez plus de chances de gagner les matchs.
Et quand vous marquez 3 buts à l'extérieur, c'est-à-dire 3 buts sur la pelouse du Bayern, avant 2 buts, pardon, et que vous allez revenir...
Presque 3, en fait.
vous allez revenir au match retour avec cet avantage dans votre stade, effectivement, c'est important. Et d'ailleurs, Zidane a-t-il fait un grand coup ce soir?
Oui.
Eh bien, sa réponse.
Forcément, parce qu'on vient de gagner ce soir ici. Enfin, on vient de gagner ce soir ici, donc forcément, je pense que c'est assez mérité. Même si la deuxième mi-temps, on a joué à 11 contre 10, donc je pense qu'avec l'occasion qu'on a eue, on aurait préféré marquer encore un but de plus.
Oui, il y a ce petit regret quand même.
Oui, forcément, parce qu'il y avait la place, il y avait la place de marquer plus de buts. Et bon, il y avait un gardien en face qui était. C'était un mur, donc maintenant on a gagné notre premier match, il en reste un deuxième et donc on va bien se reposer maintenant et penser au deuxième match.
Zinedine Zidane, le compétiteur, hein, c'est jamais suffisant le nombre de buts.
Attention quand même, sur ce match, le Bayern était privé de Robert Lewandowski, qui devrait être de retour pour le match retour.
Peut-être, oui. Là, il était blessé. Hein.
Voilà.
Mais c'est dans une semaine. Ils vont surtout récupérer Hummels, qui va stabiliser
aussi
la défense.
En même temps, il faut quand même souligner que le Real n'a pas volé sa victoire malgré ça. C'est 23 tirs à 13, quand même, pour le Real, à l'extérieur.
C'est énorme.
Et 10 arrêts de Neuer.
C'est un gardien
de rang.
C'est
pour vous dire
soir,
le niveau quand même qu'a mis offensif, l'impact offensif qu'a mis le Real sur ce match. Non,
mais tous les regrets d'Idan, hein, quand même. C'est
il a bloqué certaines, notamment un tir de Cristiano Ronaldo. Ouais. On se demandait comment il l'avait arrêté. C'est vrai
comme un gardien de handball.
On a eu mal pour lui en le voyant.
En même temps, c'est vrai qu'on s'attendait pas à ça. Quand on voit les 30 premières minutes, on s'attend pas à ce que ça termine 2-1 pour le Real, voire 3-1. Mais c'est surtout pas toujours très bon signe quand on parle que du gardien. C'est-à-dire que si on me dit que le meilleur joueur du Bayern, ça a été le gardien. Il y a de fortes chances que ça soit pas très bien passé, ou alors vous avez fait match nul, quoi.
Tout à l'heure, en première partie de Radio Foot, quand on imaginait ce qui pourrait se passer dans ce match et qu'on évoquait le travail de Zidane par rapport à celui d'Ancelotti, vous l'abordiez tout à l'heure. On parlait de l'élève et du maître. Le maître étant Ancelotti, puisqu'il avait eu Zidane pour adjoint, il l'a eu aussi pour joueur. Et finalement, l'élève, me disait-on, nos auditeurs sur Facebook me disaient, mais évidemment que l'élève dépasse le maître. Est-ce qu'il l'a dépassé? C'était aujourd'hui le match qui passe, fait passer d'un monde à l'autre.
Il faut attendre un peu quand même. Il faut attendre un peu.
La qualification.
Zidane est déjà très haut puisqu'il a quand même gagné la Ligue des Champions pour sa première saison sur le banc. Bon, c'est quand même pas donné à tout le monde, même au Real Madrid.
Juste après Ancelotti.
Voilà. Tout à fait.
Il gagne la 11e après la 10e.
Maintenant, il faut déjà il y a un match retour, faut pas l'oublier. Mm-hmm. C'est pas fini.
Non, mais dans la confrontation sur la pelouse adverse.
Nice, ce qu'on peut dire, c'est surtout que Zidane gagne vraiment ses galons de grand coach parce que je me souviens quand il arrive la saison dernière, il y a des doutes énormes sur lui.
Mm. Il y en a encore.
Ouais, on le taxe tout à fait, sinon on se poserait pas la question. On le taxe de géo du Club Med, c'est-à-dire qu'il fait de la calinothérapie, il sait parler aux grands joueurs, mais on se rend compte également qu'il a fait des choix, il a fait des choix qui n'ont pas toujours plu. Face à Las Palmas, il a sorti Ronaldo, Ronaldo l'a insulté, on l'a tous vu. Donc il a pris aussi ses responsabilités. À la 60e minute, il sort Bale, donc il est capable,
il est capable de prendre
des décisions. Ensuite la patte, moi ça me fait rire, la patte. Mais la patte de quoi? Non mais je veux dire, il y a un moment faut être sérieux.
La patte de fruits.
Alors dans ces cas-là, t'as qu'à mettre Marcelo dans l'axe. Tu le fais jouer défenseur central comme fait Guardiola. Ah oui, on voit la patte Zidane. Non mais je veux dire, il y a un moment, il faut aussi se dire que voilà, c'est le Real, c'est une institution. Il a des joueurs. Il peut pas faire n'importe quoi.
Certains écrivent que Zinedine Zidane est bloqué, obligé de faire jouer cette BBC et que le Real joue moins bien avec la BBC. Alors des auditeurs, c'est pas. Il y en a un qui m'a dit, mais c'est une ineptie.
Mais
il a
raison,
ce genre de choses.
C'est qui d'ailleurs? On peut le féliciter.
Malheureusement, j'ai noté son nom, mais il se reconnaîtra.
Il se pose le problème, c'est l'émergence de Isco, c'est-à-dire que c'est vrai qu'Isco, quand il joue, il est vraiment au niveau des titulaires, et voire au-dessus, et pour d'autres raisons, il ne joue pas forcément tous les matchs.
Sauf que ce soir,
non, mais ce qui est intéressant, au sujet de Morata, moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui nous disent que Morata apporte plus que Benzema. Non, c'est
Morata,
faux.
C'est un 9.
Sur les gros matchs, Benzema apporte plus que Morata.
Mais ce soir, en l'occurrence, la BBC était là, mais Bale revenait d'une longue blessure et donc
Benzema,
finalement,
il a fait ce que fait Benzema, il joue pour lui et aussi pour les autres.
Ouais.
Et il aurait pu être décisif ce soir, il a livré plutôt un bon match et il a donné des bons ballons. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est la saison prochaine à Nice. Peut-être avec l'arrivée d'Eden Hazard, ça va peut-être rebattre des cartes. Ça va peut-être aussi pousser, j'en sais rien, Bale vers un départ parce qu'il se dit que peut-être qu'il pourrait aller en Angleterre à Chelsea ou à Manchester United en cas d'arrivée de Hazard. Et on peut aussi remarquer que James Rodriguez, ça démontre quand même le réservoir de cette équipe, même s'il doit pas très bien vivre la situation, parce que c'est un crack, c'est un cador, notamment avec la sélection colombienne. C'est un garçon qui rentre à la 82-83e minute après Asensio, c'est-à-dire après l'enfant du club, qui ce soir a délivré une passe décisive à Ronaldo.
Mm-hmm. C'est-à-dire quoi? Là, le Real Madrid est au rendez-vous. C'est des gros clubs finalement qu'on
attendait.
Ils sont partis pour.
Pour moi, ils vont aller au bout en Liga.
En tout cas, ce soir, toutes les équipes qu'on a vues,
s'il passe le Bayern, s'il passe, parce que c'est le tirage le plus difficile, on peut raconter ce qu'on veut. Voilà.
Alors, Madrid a deux équipes et l'autre équipe jouée à domicile, l'Atlético. Il a gagné son match, l'Atlético, un but, un penalty face à Leicester, les champions d'Angleterre en titre. Mais petite victoire, vous faites la moue, Patrick Juillard.
Je fais la moue parce que pour moi, ce penalty n'existe pas. C'est-à-dire que la faute est en dehors de la surface, c'est clairement en dehors de la surface.
Il y a eu un penalty dans chaque match.
C'est parallèle à la ligne, on voit bien que.
Vivement la vidéo.
L'impact et la faute, il n'y a même pas besoin de la vidéo,
Patrick,
là, il suffit d'avoir des yeux.
On le voit bien derrière notre écran.
Non, mais même,
il
y a une ligne,
Eric,
à vitesse réelle, il y a une ligne et le pied du défenseur de Leicester touche la ligne après avoir touché Griezmann. Donc c'est bien que la faute a été faite avant la ligne, donc il n'y a pas pénalty.
J'ai pas trouvé l'arbitre bon ce soir. Je trouvais qu'il sifflait très souvent en faveur de l'Atlético. Peut-être que Leicester a été arbitré comme une petite équipe. Il y a un penalty qui aurait dû être sifflé sur Mahrez en deuxième.
Qui aurait pu en tout cas être.
Ouais, enfin bon, il aurait pu au minimum compenser.
Tout est dans la nuance
entre guillemets
entre vous deux.
Pour moi, il aurait dû être sifflé, mais enfin bon. Bref, c'est une autre histoire. Après, franchement, l'Atlético font pas un grand match, mais est-ce qu'ils ont besoin de faire un grand match? Alors, ils auraient pu plier l'affaire à l'aller comme tout le monde.
Alors,
mais ils
ont
déjà
un bon que l'année dernière.
Carlos Pizarro nous expliquait tout à l'heure dans la première partie que le but premier de l'Atlético, c'était de ne pas encaisser de but. Des Anglais, ce qu'ils ont réussi à faire. Maintenant, est-ce que vous voyez cette équipe de Leicester, telle que vous l'avez vue jouer ce soir, pouvoir s'imposer la semaine prochaine?
Ça va être compliqué puisque l'Atlético a déjà résisté à d'autres équipes dans la même situation comme le Bayern, le FC Barcelone, le Real. Mais maintenant, cette équipe de Leicester à Nice, c'est une histoire, c'est un groupe, il y a un côté d'irrationnel, ils ont renversé la vapeur face au FC Séville. Vous avez quand même des joueurs qui ont une grinta, une abnégation incroyable, à l'image de Jimmy Vardy qui court dans tous les sens, Slimani qui est rentré. Il y a la patte de Mahrez qui, à n'importe quel moment,
tiens,
peut faire
la... Là.
Oui, il y a une patte. Une patte gauche, une belle patte gauche, qui peut faire la différence. Ensuite, ce qui est intéressant, j'en parlais juste avant d'entrer dans l'émission, c'est que je trouve que Ben, j'arrive pas très
bien. Alouane.
Ben Alouane, dans l'axe central, à la place
un
de
ancien
Morgan.
Stéphanois.
Ça donne une meilleure relance à cette équipe de Leicester et ça lui permet de jouer un peu plus au foot et plus vite. Maintenant, si vous me demandez qui est le favori, même avec ces 75-25, je veux dire, même s'il y a un retour à Leicester, c'est du 75-25.
Moi, je dirais plutôt deux tiers, un tiers.
Parce que là, l'équipe de Leicester que vous nous décrivez, c'est celle que vous espérez voir au match retour, pas celle qu'on a vue ce soir. Parce qu'elle a quand même pas existé.
Elle a pas existé, mais elle devait prendre 4-0 si on écoute.
Oui,
tout
ça
le monde.
C'est vrai. Ça, c'est vrai.
Allez messieurs, bon. C'est voilà pour ce qui est de cette Ligue des Champions et de toute façon on y reviendra demain dans Radio Foot International en faisant un peu le bilan de ces quarts de finale. Mais pour l'instant, nous allons partir du côté de Lyon où on reste sur la scène européenne, mais où se déroulera eh bien demain un match de Ligue Europa, quart de finale là aussi. Et là, eh bien nous avons encore une équipe française qui est en piste. Il s'agit de l'Olympique Lyonnais qui recevra le Beşiktaş d'Istanbul. Deux équipes donc qui se feront face à face, mais il y a aussi les supporters qui vont se faire face à face. Et c'est pour ça, Christophe Diremzian, que l'on avait besoin de vos lumières, vous qui êtes à Lyon et qui avez observé un petit peu tout cela. Le match est à haut risque d'abord sur le plan de la sécurité, c'est cela ?
Oui, effectivement, demain, je vous cache pas que les responsables de la sécurité de Lyon et du Parc OL sont quand même un petit peu sur les nerfs, parce que on attend au bas mot 20 000 supporters turcs, qu'on peut découper de la façon suivante. Il y aura 2800 supporters officiellement qui viendront au nom du contingent pris sur Beşiktaş, hein, qui ont pris leur billet via le canal officiel habituel du Beşiktaş. Et puis, vous aurez des Turcs qui viennent bien sûr de la région lyonnaise, mais vous aurez également des Turcs qui sont censé venir de l'Allemagne, de la Suisse, parfois même de l'Angleterre, par avion, par bus, et qui parfois, pour certains, ne sont pas ou peut-être pas forcément animés des meilleures intentions, parce que tout simplement ils n'ont pas de billets, et donc ça risque peut-être de poser effectivement quelques problèmes aux abords du stade. Voilà pourquoi les autorités du Rhône, le préfet du Rhône, a d'ailleurs émis un arrêté qui lui interdit toute manifestation politique. Mais surtout qui interdit la présence dans le stade de tout signe, oui, banderole ou drapeau sur une actualité brûlante en Turquie qui sera le référendum constitutionnel de dimanche. On veut absolument pas qu'il y ait de débordement de cette nature-là. C'est le principal souci qu'on pourrait avoir demain aux abords du Parc OL ou dans le Parc OL, c'est-à-dire des déclarations d'intention pro ou contre le référendum et les pouvoirs accrus au président Erdogan. On veut absolument pas que le terrain politique vienne empiéter sur le terrain sportif. On veut évidemment que ce soit une fête du football et pas du tout un terrain d'expression pour d'éventuelles revendications politiques turques.
Oui, c'est d'ailleurs exactement ce que vous disait le responsable du parc OL, Xavier Pierrot. Il le dit à votre micro, il explique même, ça va au-delà d'ailleurs des idées politiques, c'est aussi étendu aux autres clubs.
Par rapport à Séville, Rome ou la Juve, les derniers gros matchs qu'on a pu organiser, on est sur un niveau supérieur parce qu'on a des milliers de supporters de l'équipe adverse un peu partout dans le stade. Un contexte géopolitique global autour de cette rencontre rendu difficile. Un référendum, une communauté arménienne sur des sites en nombre important. De nombreux turcs, franco-turcs, supporters de l'OL et de Beşiktaş en même temps que de Beşiktaş. Donc on se doit d'être plus vigilant. Il y a un arrêté préfectoral qui a été pris qui est effectivement interdit toute mise en avant d'autres choses que les couleurs des deux clubs participants à la compétition et des deux pays. Donc c'est pas la peine de venir avec des drapeaux arméniens, Galatasaray, Fenerbahçe ou je ne sais quelle autre mise en avant. Ça reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, un match de foot, ça ne doit pas être un meeting politique et on fera tout, en tout cas au niveau des entrées et des contrôles, pour rester sur ces couleurs sportives et surtout pour qu'on pousse notre équipe de cœur à aller le plus loin possible dans cette compétition.
L'avantage peut-être, Christophe, c'est que ce nouveau parc OL, enfin ce nouveau stade de Lyon, le parc OL, est en dehors de la ville, c'est à Décines pour l'instant, c'est encore un peu parking et terrain vague autour, peut-être plus facile à surveiller pour les forces de sécurité.
Oui, effectivement, il y aura moins de risques qu'en centre-ville. Ceci étant, je vous cache pas que les supporters turcs seront demain aussi quand même dans le centre-ville de Lyon pour manifester leur présence de façon tout à fait normale, en tout cas, on l'espère. Mais attention quand même, parce que sur le trajet, et Xavier Pirot le rappelait aussi quand même dans ce qu'il nous a dit, c'est que dans le trajet entre Lyon et le Parc Oel, il y a la fameuse commune de Décines-Charpieu sur laquelle se trouve le Parc Oel. Décines-Charpieu, vous le savez peut-être, c'est ce qu'on appelle dans la région la petite Arménie, et parce que la forte présence de la communauté arménienne sur place risque peut-être de susciter des provocations ou des tensions sur le trajet qui va être effectué par les supporters, parfois en transport en commun entre le centre-ville et le Parc Oel. Le tramway, pour ne pas le nommer, passe notamment dans la zone effectivement où se trouve une forte communauté arménienne. Il suffirait peut-être parfois d'une petite étincelle pour que des provocations soient effectuées et parfois génératrices de tensions.
Bon, alors, pour ce qui est de l'enjeu sportif, on va dire, Christophe, évoquons un peu quand même cette confrontation et écoutons Jérémy Morel, qui était en conférence de presse et que vous avez rencontré, le latéral des Gones, qui évoque l'enjeu sportif, parce qu'on le sait, Lyon en ce moment, ça va pas très fort en Ligue 1.
On manque de pas mal de choses en ce moment, donc c'est justement sur des gros matchs comme ça où il faut répondre présent par rapport au championnat, par rapport à des matchs un peu moins relevés. Là, si on se loupe, on va aller tout droit vers une désillusion. Je pense qu'il va falloir s'attendre à un gros match, que ce soit sur le terrain et dans les tribunes. Donc, c'est sûr que ça va changer par rapport au match de championnat où il va y avoir beaucoup d'ambiance. Maintenant, le travail est d'être le plus professionnel sur le terrain. Et après, ce qui se passe en dehors, bon, c'est des choses qu'on doit voir, on va dire, dans tous les stades, hein, beaucoup de ferveur et tout ça. Maintenant, c'est sûr que 15 000, c'est un peu inhabituel quand même.
Christophe, adversité à domicile finalement avec cette présence massive de supporters du Beşiktaş. Quelles sont selon vous les armes de Bruno Genesio et de ses hommes ?
Déjà, effectivement, l'esprit de revanche, parce que vu ce qui s'est passé samedi face à Lorient, on peut pas dire que Lyon ait brillé par son efficacité.
Combien ils ont pris ?
On les a vu totalement liquéfier ces pauvres Lyonnais. Ils ont pris 4 buts, hein, 4-1, évidemment, ça fait très mal.
Ça fait mal. Hein.
Et Bruno Genesio a d'ailleurs dit tout à l'heure que ça n'avait pas été totalement évacué de son point de vue personnel, qu'il en gardait encore une trace dans son esprit. Bon, qu'il fallait quand même tourner la page, mais que évidemment, il comptait sur le ressort des Lyonnais et leur capacité à se transcender quand même dans les matchs importants. Et évidemment, il préférait largement voir ce qu'il a vu, notamment lors de la seconde période face à l'AS Rome en huitième de finale, plutôt que ce qu'il a vu face à Lorient, parce que sinon, ça risque d'être une catastrophe au match retour, et surtout, ça risque de se solder par une saison blanche pour l'OL, parce qu'évidemment, point de vue podium en championnat, vous savez que c'est quasiment réglé, que c'est même pas encore la Ligue Europa assurée, vu ce qui se passe derrière au classement de la Ligue 1, et que le titre en Ligue Europa, il est encore loin d'être acquis.
Oui, et d'ailleurs, Jean-Michel Aulas a bien spécifié que les joueurs jouent leur carrière comme l'institution joue son développement. Alors il y a plein d'enjeux autour de ce match. Comment le voyez-vous, Nabil ?
Ils sont piégés par l'intensité émotionnelle, notamment ce qui a été décrit avec le fait qu'ils vont peut-être jouer en partie à l'extérieur quelque part.
Pratiquement.
Alors qu'ils ont plutôt intérêt à prendre l'avantage à l'aller d'une manière conséquente. Je parlais tout à l'heure de Karl Medjani qui joue à Trabzonspor. Je lui ai parlé du match. Il m'a parlé un peu de cette équipe de Beşiktaş. Alors qu'il se rassure, il n'y aura pas de Camerounais comme face au FC Lorient à sa pointe.
Vincent Aboubakar n'est pas là.
Parce qu'Aboubakar n'est pas là, mais il y a d'autres talents. Talisca qui est passé par Benfica, le Brésilien, magnifique joueur, un gaucher. Il y a Quaresma qu'on connaît qui a été champion d'Europe avec le.
Il
sera pas là.
Le Portugais.
Et il y a également un jeune Turc qui serait une des valeurs montantes qui s'appelle Youssouf. Il m'en a parlé. C'est un garçon qui a mis 8 ou 9 buts. Donc, Lyon, on les a vus se transcender, être plus forts. On y était avec Patrick à deux reprises. On les a vus notamment face à la Roma avec ce 4-2. Ils ont des arguments offensifs de très haut niveau. Quand un Lacazette ou un Fekir sont à leur niveau, ils sont capables de coller 3 ou 4 buts à cette équipe turque. Moi, j'en suis persuadé. Donc ça va être c'est un match. Moi, j'estime que c'est un match piège. Voilà.
Patrick.
Ce qui est difficile pour Bruno Genesio sur cette deuxième partie de saison, c'est que l'OL a recruté Memphis Depay cet hiver, mais il ne peut pas l'aligner en Europa League. Donc il construit en championnat une équipe avec Memphis et il est obligé d'en faire jouer une sans en Europa League. Donc il a un peu de mal à trouver la bonne carburation et surtout il a du mal à aligner la même équipe par définition deux fois de suite. Donc ça parasite un peu sa fin de saison. En plus, il fait certains choix parfois pour des raisons politiques, c'est-à-dire que
Fekir,
il faut exposer certains joueurs ou au contraire en cacher d'autres. Bref, il y a beaucoup d'interférences en fait, je trouve, dans son travail. On le juge sévèrement parce que peut-être qu'il communique pas toujours très bien, mais il faut pas le juger trop sévèrement parce qu'il y a beaucoup d'interférences dans son travail.
D'ailleurs, son avenir n'est pas encore totalement clarifié, même si on parle du fait qu'il puisse être maintenu. Mais si la fin de saison termine en queue de poisson, je parle pas des merlus.
Vous parlez de Genesio là, pas de Aulas. Hein.
Aulas, vous inquiétez. Oui. Si la fin de saison termine en queue de poisson, il peut être extrêmement fragilisé et ne pas rester.
Oui, à propos de Turquie, Lyon cet hiver avait hésité à enrôler Emmanuel Adebayor. Aujourd'hui, il joue à Istanbul bébé, il en est à 5 buts en 5 matchs. Mm-hmm. Petite dédicace.
Quelques regrets. Merci beaucoup Christophe Diremzian d'avoir été en direct avec nous, non pas de la Lune, mais simplement de Lyon avec le petit décalage auquel conduit parfois...
Ah, faut prendre le tram. Hein.
La haute technologie.
Ouais. Dernier tram est à 23h45, je le répète, aux supporters, parce qu'avec Patrick, on a dû le subir.
Merci beaucoup donc Christophe. Je citerai aussi les autres matchs de la soirée de demain. Il y aura un Anderlecht Manchester United. Manchester United qui aimerait bien cette équipe de José Mourinho l'emporter. Mmh. Alors ça sera en Belgique. Celta Vigo qui reçoit Genk, autre club de Belgique. Et puis on aura Ajax Schalke 04.
Belles affiches hein, quand même.
Hein. Et on en parlera évidemment dans Radio Foot. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à cette deuxième émission du jour. Merci à David Finzel qui était fidèlement là derrière la vitre avec Nicolas Benita. Et on vous dit, eh bien, nous aussi, à demain.